Hey, tu entends? Ça bourdonne.
Oui, Mimi, je cherche l'agité du local sur les ondes.
Aujourd'hui, nous sommes mardi 30 septembre. Mardi 30 septembre, ça pourrait être tellement de choses. Un chiffre au milieu d'un calendrier, un jour qu'on rature sans y penser, ou bien un jour qu'on garde plus précieusement. C'est forcément l'anniversaire de quelqu'un, c'est forcément le jour des bonnes nouvelles, c'est forcément le jour que quelqu'un choisira pour un premier je t'aime ou pour un dernier je t'aime. Nous sommes mardi 30 septembre. C'est la fin du mois déjà. Septembre s'en va doucement avec son odeur de cahier neuf et de pommes encore un peu acide. Octobre attend, derrière la porte il gratte au carreau, prêt à s'installer avec ses brouillards et ses matins plus courts. Alors que fait-on de ce 30 septembre ? Est-ce qu'on le laisse filer comme les autres ou est-ce qu'on en fait quelque chose ? Un mardi banal ou un mardi qui nous oblige à lever la tête, à regarder le ciel, à mesurer l'air qu'on respire ? Parce que l'air, justement, c'est ça qu'on va questionner aujourd'hui, notre souffle, ce trait commun qui nous tient debout. Et si derrière un mardi ordinaire se cachait une idée folle ? Apprendre à compter autrement, compter en respiration partagée. Aujourd'hui, dans le studio de l'autre radio à Laval, on parlera de cette idée étrange et belle, un compte carbone démocratique. Derrière ce terme technique, peut-être une promesse, celle de vivre ensemble, autrement celle d'une justice climatique, je ne sais pas. Pour en discuter, Julien, co-référent des Shifters en Mayenne, sera avec nous dans quelques instants. Et puis, on enfourchera nos vélos, au sens propre comme au figuré, avec Marie Bouquin de Place au Vélo. On va parler du programme Libre à Vélo, qui remet en selle celles et ceux qui en ont le plus besoin, puisque le vélo, c'est peut-être une petite révolution du quotidien. On évoquera aussi la journée du 4 octobre pour le mois du climat, bourse au vélo, atelier de réparation, marquage bicicode, fresque de la mobilité, et même une sortie collective, justement, avec les Shifters en Mayenne. Ce sera donc en seconde partie d'émission. Et puis pour finir, on ouvrira grand les fenêtres avec la chronique de Donatien, puisqu'une chronique de Donatien, c'est toujours un courant d'air, un pas de côté, un parfum inattendu, un sourire en coin. C'est le moment qui nous rappelle que dans une journée, même bien remplie, il reste toujours un espace pour l'inattendu, pour l'étonnement. Ce mardi 30 septembre, je salue chaleureusement l'auditeur de l'autre radio. Je lui demande de ne pas baisser le son, de ne pas couper l'autoradio, de rester avec nous, puisque parler seul est effrayant et que ça n'a pas de raison d'être sur les ondes. Eh bien oui, c'est beaucoup trop pour lancer une émission, il en faut toujours plus, je suis Margot, c'est l'agité du local, il faut maintenant passer à l'entretien du jour.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Ce jeudi 3 octobre, à Laval, les Shifters organisent une conférence intitulée Air Cotard, rendez-vous à 19h au 25 rue du Mans pour parler d'un mécanisme inédit, un compte carbone démocratique, pensé comme un outil de justice climatique et sociale. Pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Julien, co-référent des Shifters en Mayenne. Bonjour Julien, merci d'être avec nous.
Bonjour Margot.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter les Shifters en quelques mots ?
Alors je suis désolé pour les auditeurs et les auditrices, mais donc Shifter c'est un anglicisme, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas c'est une association de bénévoles qui est une association petite sœur du Shift Project, qui est connue notamment parce que son président est Jean-Marc Jancovici, donc un grand ponte du sujet climat et énergie, membre du Haut Conseil pour le climat et pour les, on va dire, les scientifiques, qui est le papa de la base carbone. Et du coup, nous, on est en fait là pour essayer d'animer dans les territoires les enjeux de transition écologique sur les aspects donc climat et énergie, donc pour avoir une société qui soit libérée des énergies fossiles et protégée du climat.
Concrètement, quelles actions est-ce que vous menez en Mayenne pour sensibiliser, mobiliser autour des enjeux climatiques ? Il y aura cette conférence, mais j'imagine qu'il y a d'autres temps prévus tout au long de l'année.
Tout à fait. Ben, pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de regarder le dépliant sur le mois du climat, donc nous on fait beaucoup d'ateliers en cette session, et donc des ateliers qui permettent de prendre conscience sur différents enjeux, le numérique, le climat, le sol, mais aussi sur ce qui va être attrait aux objectifs d'atteinte de 2 tonnes des accords de Paris. Donc voilà, des ateliers ludiques pour prendre conscience, avoir aussi des leviers d'action, mais aussi après des conférences un peu plus transverses et généralistes comme la conférence Ercota, mais aussi on a présenté les travaux du Shift Project sur comment faire une transition écologique qui soit abordable dans les contraintes climat et énergie.
Ce jeudi, moi, ce qui m'a intéressé un peu en particulier, ce qui a attisé ma curiosité, c'est cette conférence, comme vous l'avez dit, qui s'intitule Ercota. En quelques mots simples, de quoi est-ce?
Alors, en fait, la conférence Ercota est en fait une présentation de ce qu'on pourrait appeler le compte climat. En fait, à l'instar d'un compte bancaire, l'objectif, c'est d'avoir sur la possibilité pour chaque individu d'avoir un quota, une quantité de CO2 équivalent à ne pas dépasser, comme on peut l'avoir en fait sur un compte bancaire, et en fait d'avoir une limite physique qui permet de ne pas aller au-delà pour éviter les contraintes du dérèglement climatique, puisque je le rappelle, les objectifs portés par la France aux accords de Paris en 2015, c'était d'atteindre 2 tonnes à l'horizon 2050. Donc l'objectif, c'est de dire, vous avez le droit de polluer jusqu'à 2 tonnes, vous le faites de la manière qui vous convient, c'est-à-dire prendre des déplacements en voiture, en avion, ou manger de la viande. Mais par exemple, si vous utilisez un levier de manger de la viande, à ce moment-là, il faudra peut-être revoir sa mobilité. Et comme ça, c'est ce qui paraît être le plus démocratique. C'est pas vous n'avez plus le droit à ci, à ça, c'est vous devez du coup jouer comme un compte bancaire avec qu'est-ce que je peux dépenser, qu'est-ce que je ne peux pas dépenser.
Et alors, donc, le principe d'un compte carbone démocratique, ça paraît un peu abstrait. Concrètement, comment ça fonctionnerait dans la vie quotidienne?
Effectivement, ce serait d'avoir ça peut être une application, un compte, où on peut en fait suivre vraiment comme un compte bancaire. C'est pour ça que j'aime vraiment bien le parallèle, de savoir où est-ce qu'on en est au niveau de ses dépenses. Alors, ce sera présenté lors de la conférence, mais du coup, ça veut dire que tous les acteurs économiques puissent renseigner quelle est la valeur quand je prends un café, quelle est la valeur quand je vais par exemple acheter un canapé, pour vous dire de combien est-ce que mon solde est débiteur ou créditeur.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de justice climatique et sociale. En quoi ce système justement pourrait être plus équitable par rapport à une taxe carbone classique?
C'est que en fait, le taxe carbone, souvent les gens les plus aisés ont la possibilité de franchir le pas en payant beaucoup, parce qu'ils en ont les moyens. Et justement, là, en fait, ce qui est amené dans la conférence et qui est porté au niveau européen, c'est de se dire, on essaie de faire en sorte de mettre tout le monde sur le pied d'égalité. Alors, avec des mécanismes, ce qu'on appelle de transfert, c'est-à-dire qu'éventuellement, ceux qui sont plus vertueux, et notamment, c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, proportionnellement, les plus pauvres, qui vont émettre beaucoup moins, peuvent éventuellement en tirer un bénéfice pour le revendre à ceux qui ne sont pas encore suffisamment en action pour arriver à leurs objectifs qu'ils vont avoir.
Et alors, beaucoup craignent une atteinte aux libertés individuelles. Comment est-ce que vous répondez à cette inquiétude-là?
Eh bien, en fait, c'est une question qu'on se pose pas, par exemple, sur le modèle économique, sur son compte bancaire. On ne dit pas « Oh là là, je ne peux pas me payer de yacht ». En fait, y a des limites qui sont celles du compte bancaire, et alors que le compte carbone, c'est vraiment la même philosophie. Et comme je le disais précédemment, c'est en fait, vous avez une possibilité de dépense. Après, vous mettez là sur ce qui vous paraît le plus important et ce qui l'est moins, et c'est ce qui reflète un peu plus le choix et la possibilité offerte à chacun et à chacune.
Et alors, selon vous, on ira davantage dans le détail, j'imagine, lors de la conférence, mais quelles seraient, selon vous, les conditions pour que ce soit accepté et efficace?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on essaie de... Amel Prieuré, qui va présenter la conférence, essaie de pousser au niveau européen, parce que c'est vraiment à cette maille-là, à cette échelle-là, que beaucoup de sujets d'écologie, d'énergie, de climat se jouent. Donc déjà, essayer de le faire prendre en main par la Commission européenne et les différents États membres. Et ensuite, c'est de pouvoir, probablement la base du volontariat, pousser à ce que les acteurs économiques renseignent une base carbone de leurs produits. C'est déjà le cas, mais qui ne s'est pas encore transférer dans le domaine du milieu économique au proprement parlé, avec un compte pour les individuels, c'est pas encore redescendu. Et ce serait ça un peu ça les étapes qui vont pourraient se succéder.
Est-ce qu'il existe déjà des exemples ou des expérimentations en France ou même à l'étranger qui nourrissent la réflexion de ce projet-là?
Alors, pas ma connaissance. On travaille sur beaucoup de sujets et j'ai pas un giron à 360 degrés. Désolé, je ne suis pas je ne sais pas tout sur tout.
Est-ce qu'on pourrait redouter la complexité technique de ce dispositif, mesurer et suivre les émissions sans créer une usine à gaz administrative, c'est possible? Via l'application peut-être justement.
Alors justement, en fait, si y a des gens qui sont dans la comptabilité par exemple, ce qui n'est pas mon cas, mais en tout cas c'est des choses que je suis un petit peu, quand vous avez un numéro SIRET, un numéro SIREN, un numéro de TVA, en fait c'est plein d'informations qui vont permettre d'identifier l'activité et après d'aller chercher les informations qui sont rattachées, qui vont être ensuite fournies par les fournisseurs de services et de produits. Donc en fait, il n'y a pas forcément de complexité outre mesure, ça peut peut-être être un peu long, il y aura peut-être ce qu'on appelle dans d'autres secteurs d'activité des valeurs par défaut, c'est le cas dans la construction où vous avez des professionnels qui vont donner leur propre valeur avec des mesures pour leurs matériaux, je prends pas un isolant, et pour d'autres où ils n'ont pas forcément la volonté ou pas encore forcément les moyens pour se payer une certification et faire tout le travail de mesure à ce niveau-là, ça va être une valeur par défaut. Et c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Surtout, ce qu'il faut dire dans la transition écologique solidaire, c'est que c'est un sujet très vaste et il ne faut pas se mettre des freins. Il n'y a rien de pire que de se dire que c'est impossible. En fait, il faut d'avoir osé pour faire en sorte que ce soit possible. Si on se dit déjà que ce n'est pas possible, on n'aura pas fait le premier pas.
Donc déjà, en discuter, y réfléchir ensemble. Et donc, le rendez-vous que vous nous donnez pour en parler, c'est ce jeudi 3 octobre à Laval, 25 rue du Mans.
Et on attend surtout les commentaires, les réactions du public et qu'ils viennent nombreux.
C'est une conférence qui se veut interactive, justement.
Tout à fait.
Plus largement, quel rôle peuvent jouer les citoyens mayennais dans ce débat-là tout au long de l'année? On peut vous rejoindre peut-être déjà?
Il y a ça, et puis dans le cadre du mois du climat, le conseil départemental a mis en place ce qu'on appelle un lien vers un outil qui s'appelle Nos gestes climat, qui est développé par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui permet en fait de mesurer son impact sur le climat. Et ça permet de voir justement où est-ce que sont, ce qu'on appelle chez nous les facteurs d'émission, où est-ce qu'on pèse le plus dans son impact sur le climat, et de voir avec des conseils qui sont donnés sur l'outil, qu'est-ce que je peux essayer d'activer comme levier pour être plus vertueux, plus vertueuse.
C'est la première fois que je vous reçois, Julien, pour les shifters dans cette émission. Comment est-ce qu'on vous rejoint si l'auditeur de l'autre radio est curieux et a envie de s'engager avec vous?
Alors, vu que c'est une association nationale, nous on est un groupe local, il y en existe une trentaine sur la France et même d'ailleurs à l'international. Vous avez un site, c'est theshifter.org, et The Shifter, c'est un S, un H, un I, un F, un T, un E, un R et un S.
Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous.
Merci Margot pour ces questions.
L'autre radio, c'est la vie qui passe en direct.
Avant d'enfourcher notre vélo, on se balade avec MPL et Clou. D'ailleurs, plus qu'une balade, ils nous embarquent pour un voyage, mais sans avion. C'est leur nouveau titre et c'est dans l'agité du local.
Si on va plus dans les avions, dis-moi où est-ce qu'on ira. J'aurais voulu voir le Japon, j'aurais voulu voir ça. On ira à l'aéroport, comme on va au musée, comme on visite les châteaux forts pour voir comment c'était. Dans une certaine mélancolie, on se sentira bien. On ira jusqu'au duty free, respirer les parfums. Et sur la piste où les géants s'élancent dans les airs, on ira se perdre un moment dans ce nouveau désert. J'avais toujours le cœur serré.
Jouer les âmes en passagers d'avion sans réaction. Oh. continuera. De chaque côté des océans, l'amour s'inventera. On trouvera bien d'autres manières pour pouvoir voyager. On demandera à la poussière de nous dire son secret. J'avais toujours le cœur serré au décollage. L'ombre des ailes flottait sur la mer de nuages. J'avais toujours le cœur serré au décollage. L'ombre des ailes flottait sur la mer de nuages. Et le monde en bas.
Et le monde en bas. Et le monde en bas. Et le monde en bas.
Vous écoutez l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Le vélo ne semble plus être un objet étonnant et pourtant, il y a là quelque chose qui dépasse la mécanique, une autre manière de se déplacer, de regarder sa ville, de respirer. Alors, est-ce qu'enfourcher un vélo, c'est juste choisir un moyen de transport ou amorcer une petite révolution du quotidien ? Je me suis rendue à l'association Place au vélo à Laval pour parler du programme Libre à vélo qui accompagne celles et ceux pour qui se déplacer reste compliqué. Et puis pour parler aussi des rendez-vous du 4 octobre dans le cadre du mois du climat, bourse au vélo, atelier, fresque de la mobilité et sortie collective avec les shifters 53. Écoutez. Ça y est, je viens d'arriver 11 allées du Vieux-Saint-Louis à l'association Place au vélo. Alors, si vous ne visualisez pas, ça se trouve au niveau des anciennes halles. Et alors ici, je suis accueillie avec un sourire. Marie, est-ce que tu peux te présenter à l'auditeur de l'autre radio ?
Bonjour Margot. Alors d'abord, je suis ravie de te présenter notre bel asso aujourd'hui. Donc moi, je suis Marie, je suis la nouvelle salariée en charge de l'atelier d'autoréparation de Place au vélo.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qui se passe ici ? Là, on est entouré de vélos, de casques, d'outils.
Oui, tout à fait. Alors ici, en fait, principalement, donc on accueille des personnes qui veulent réparer leur vélo, qui veulent s'autonomiser, parce qu'en fait, ici, on n'est pas un magasin de vélos, donc en fait, on ne répare pas à la place des gens. Mais par contre, on leur met à disposition des outils, ça peut être des pompes, ça peut être des clés, etc., pour en fait qu'ils puissent apprendre et faire eux-mêmes, et essayer, et des fois même se tromper, et puis avoir des conseils de notre part. Du coup, moi, je suis mécanicienne professionnelle, et donc du coup, en fait, mon rôle, c'est quand même d'encadrer et d'essayer de guider les gens. Et puis, en fait, les personnes s'en sortent très, très bien au fur et à mesure qu'elles viennent et qu'elles s'autonomisent et qu'elles prennent goût à la mécanique.
Et alors, c'est quoi tous ces vélos-là qui nous entourent ? Est-ce que c'est des vélos qui sont donnés pour l'association ou qui sont là en attente de réparation ?
Alors en fait, tu as un peu des deux. Tu as des personnes qui viennent nous faire des dons de vélos spontanés. Tu as aussi plein de partenaires, en fait, comme Emmaüs, par exemple, qui ont trop de vélos, qui récupèrent énormément, qui récupèrent des vélos qui sont censés être destinés à la déchetterie et qui, en fait, nous font aussi don de ces vélos. Également, Alternatrice 53, qui nous met aussi à disposition des vélos qui ne peuvent pas être réparés. Et en fait, nous, on est en charge de, justement, essayer de faire le tri de ces vélos. Donc, soit de les démonter et puis de récupérer les pièces si vraiment les vélos sont en très mauvais état. Et sinon, en fait, on essaye le plus possible de reconditionner les vélos et de les mettre à disposition des gens. Donc, par exemple, là, bientôt, on va avoir une bourse au vélo. Et donc, il y a à la fois des particuliers qui vont venir vendre leur propre vélo. Et nous, également, on vend des vélos qu'on a retapés tout au long de l'année.
Ça a lieu le 4 octobre dans le cadre du mois du climat qu'organise le département de la Mayenne. Comment ça se passe exactement cette journée ?
Alors, c'est une journée en fait qui du coup a lieu à la salle des vignes et qui en fait est organisée de cette manière suivante. C'est que les particuliers viennent à partir de 9h jusqu'à midi. Ils viennent donc faire le dépôt de leur vélo. Ils viennent mettre un prix. Bien sûr, il y a une participation de 1 ou 2 euros en fonction des vélos. Donc nous, après, une fois que les vélos sont enregistrés, on les met en exposition. Et l'après-midi, à partir de 14h, on a tout un tas de personnes qui viennent regarder, essayer, et puis faire leur marché, et puis repartir avec leur vélo qu'ils ont acheté.
Donc il n'y a pas besoin de s'inscrire forcément en amont avant le jour J.
Non, du tout, c'est libre d'accès, vous venez avec votre vélo, et puis nous et nos bénévoles, on se charge de l'enregistrement.
Et avec les shifters 53, il y a également une excursion collective le même jour.
Oui, tout à fait. Du coup, il y aura une balade collective à partir de 16h qui sera animée par nous et par nos bénévoles. Mais aussi, je voulais revenir sur deux choses. Donc, il y a l'atelier de gravage de vélo Bicycode qui est proposé. En fait, ça vous permet donc de graver votre vélo. C'est un fléau, le vol de vélo. Et ça permet vraiment en fait de lutter contre ça parce que votre vélo, il est identifié avec un numéro unique. Et donc, s'il est volé ou perdu, en fait, la gendarmerie peut retrouver votre vélo. Vous pouvez vous-même le déclarer aussi sur le site internet de Bicycode et vous avez quand même beaucoup plus de chances de récupérer votre vélo. Et en plus, ça incite aussi moins le vol puisque le vélo, il est vraiment marqué, gravé dans l'acier. Et donc, du coup, moins de risque de vol. Il y a aussi un atelier de démonstration d'entretien de vélo où je serai moi-même présente et où du coup je vous expliquerai un peu comment entretenir son vélo au quotidien par des gestes assez simples.
On parle souvent du vélo comme d'un geste pour la planète, mais pour toi, qu'est-ce que ça change vraiment, même au-delà des chiffres carbone ?
Alors pour moi, vraiment, c'est à la fois de l'autonomie, parce qu'en fait, on n'a besoin de pas grand-chose pour utiliser son vélo, si ce n'est de sa propre énergie et de son propre carburant, sa propre nourriture. Et en fait, pour moi, c'est même un vecteur d'émancipation, en fait. Pour moi, mon propre exemple qui, du coup, est commencé par faire du voyage à vélo et qui, du coup, suis devenue mécanicienne au fil du temps en me prenant au jeu, en fait, d'avoir des connaissances et puis d'être animée par ce plaisir de faire de la mécanique et de mettre les mains dans le cambouis.
Et alors, l'association a également quelque chose qui a démarré déjà il y a quelques jours, c'est Libre à vélo. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors Libre à vélo, du coup, c'est un programme qui donc est lancé par notre association Place au vélo suite à un appel à projet de donc la fondation RATP et l'ONG Acted ainsi que du coup Laval Aglo. Nous sommes lauréats de cet appel à projet avec également de belles associations de vélos qui sont du coup Place au vélo Angers et La Roche-sur-Yon Centre Vélo. Et donc, ça nous a permis de lancer ce programme qui, du coup, a trois volets. Donc, en fait, c'est l'apprentissage de la pratique du vélo, l'initiation à de la mécanique vélo et l'accès à un vélo pour des personnes qui n'en auraient pas. Et donc, ce programme, à qui il est destiné ? Parce que ça, c'est un petit peu le plus important. En fait, il est destiné à tous les habitants de Laval Aglo, donc les 34 communes, qui du coup seraient empêchés dans l'accès à la mobilité, soit par leurs revenus, soit par un handicap, soit par des difficultés quelconques. Et donc nous, on a des partenaires, des prescripteurs en fait, qui nous inscrivent des personnes sur des créneaux, que ce soit sur de la vélo-école, donc apprendre à rouler à vélo, et être autonome pour rouler en ville ou aller, par exemple, se rendre à son travail. Ou alors des personnes qui viennent directement ici en atelier et qui viennent apprendre avec moi, en fait, à entretenir, réparer, etc., pour être autonome. Et puis, par la suite, en fait, du coup, peut-être acquérir un vélo.
Et donc, pour entrer dans ce programme, si je puis dire, on est inscrit via la collectivité ?
Alors en fait, on a donc les partenaires qui sont... Alors je vais vous en citer quelques-uns, hein, je ne vais pas tous les citer, mais donc il y a Alternatri, Bois Debout, le CCAS, le chantier tremplin Laval Aglo, Enosia et la légumerie par exemple, qui repèrent par exemple des personnes qui auraient des besoins et qui en fait leur proposent l'inscription à ce programme. Après, dans les faits, il y a aussi des personnes qui peuvent tout à fait s'inscrire sans faire partie forcément de ces partenaires-là. et qui en fait on a ouvert quand même globalement assez largement pour des personnes qui ne seraient pas du tout dans ces circuits-là et qui se sentiraient quand même concernées et qui sentiraient que leur accès à la mobilité est vraiment très empêché.
Et alors, ce qui découle de ce programme, c'est l'envie de créer des ateliers qui créent de l'inclusion également.
Oui, tout à fait, parce que en fait, il y a aussi d'autres publics qui sont limités dans l'accès à la mobilité. En fait, ce sont les femmes, puisque en fait, on voit au niveau des chiffres nationaux. Je vais vous donner un chiffre assez parlant, c'est celui de la Fédération des usagers de la bicyclette, dont Place au vélo fait partie, qui a fait des grandes études et qui démontre que seulement 35% des usagers de vélo sont des femmes. Donc c'est quand même, il y a un énorme gouffre et un énorme gap à combler en fait. Donc on a mis en place, et ça va démarrer très prochainement, les ateliers en mixité choisie, donc par et pour les femmes, que je vais animer.
Pour suivre les actualités, pour se tenir au courant de quand ça démarre, peut-être qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, site internet.
Oui, tout à fait. Il faut surveiller notre actualité sur Facebook et Instagram. Là, on a deux actualités assez chargées. Le 4 octobre, bien sûr, ça sera la bourse au vélo. Le prochain atelier en mixité choisie, c'est le 18 octobre. Donc, vous pouvez venir vous inscrire sur notre site. Toutes les infos sont là.
Eh bien, merci beaucoup, Marie, pour ton accueil au 11 Allée du Vieux-Saint-Louis dans l'association Place au vélo. À très bientôt.
Ben, merci à toi, Margot. À bientôt.
Et pour terminer, on ouvre grand nos oreilles parce qu'un mardi, sans la chronique de Donatien, ce serait un peu comme un café sans sa mousse, une balade sans détour. Donatien nous emmène ailleurs, toujours. C'est le moment de se laisser surprendre.
Donatien voit se profiler le retour de l'automne, synonyme de ciel gris, de journées plus courtes, de températures frisquettes. Ranger dans l'armoire le Bermuda, replier les polos à manches courtes, remplacés par la chemise et le pull. Bientôt, il faudra ressortir la parka à capuche et l'écharpe. Devant la vitrine de l'agence de voyage, Donatien se laisse attraper par les clichés affichant un beau ciel azur sur une plage blanche au bord d'un océan bleu où s'échouent des prix très attractifs et all-inclusive. Il y a quelques années de cela, l'un de ses amis s'est acheté un appartement au Portugal où il s'est expatrié, s'offrant ainsi le luxe de ne plus payer ses impôts en France, ce pays froid et gris où l'hiver s'éternise. Ainsi, certains retraités disparaissent des radars et continuent, même lorsqu'ils sont morts, à percevoir leur pension. Oui, cette phrase est idiote quand on la relit, un mort qui continue de percevoir sa pension de retraite. Nonobstant, l'État français républicain et les caisses de retraite non moins républicaines et comptables raclent les tiroirs et les fonds de caisse. Pour éviter tout excès de prodigalité, l'administration, avec un grand A, a pris la décision, impulsée par la Cour des comptes, de solliciter l'ami de Donatien portugais d'adoption et de lui demander un certificat d'existence. Donatien connaissait le certificat de baptême, le certificat de vaccination, le certificat de scolarité et autres certificats d'études et de bonne conduite et d'activité professionnelle. Mais alors, quelle belle attestation que cette attestation d'existence! Bien sûr que son ami est vivant. Chaque année, début janvier, Donatien reçoit une carte postale représentant la plage de Nazaré, la ville de Lisbonne, les façades couvertes d'azuléros ou le pont Dom Luis Ier sur le Douro. Ces cartes n'attestent-elles pas d'une existence de retraité privilégié et heureux? Mais l'administration, avec un grand A, exige une démarche auprès des autorités officielles. Même l'attestation sur l'honneur ne suffit plus. Pourtant, vit-on jamais un mort signer une attestation sur l'honneur? Le certificat d'existence est aussi dénommé attestation de vie. De son portefeuille, Donatien sort une vieille photo de ses parents en costume de jeune marié. La robe a un peu jauni, mais dans son cœur, ils sont toujours en vie, ces chers disparus. De leur pension de retraite subsistent les regards, les sourires, les mots tendres, les timides reproches déductibles d'aucun impôt, les repas partagés et les éclats de rire. Donatien s'éloigne de la vitrine de l'agence et poursuit seul un voyage dans sa mémoire où embarque sans autre certificat que celui de l'amour toutes celles et ceux pour lesquels il peut attester qu'ils sont encore vivants.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Et si tu n'existais pas, Joe Dassin. L'agité du local s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci à Julien des Shifters en Mayenne, merci à Marie Bouquin de l'association Place au Vélo et merci aussi à Donatien. Votre émission quotidienne a bel et bien une fin et une musique originale signée Lénaïque Folzour. Restez bien à l'écoute de l'autre radio puisqu'à 19h, Eldorado arrive à l'antenne. Pierre Lemarchand nous emmène en voyage dans les musiques folk et rock. Un voyage sans carte ni boussole où l'on se laisse porter. Et oui, une chanson en ouvre une autre. Puis à 21h, ce sera Frères de Chaussures, une plongée dans le rap français proposée par Fatshu. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous parlerons d'Octobre Rose avec les Agathes Roses, du choc du concert à la, du cancer à la sororité, de la fragilité à la force collective. Ce sera notre sujet. D'ici là, pensez à célébrer ceux qui méritent de l'être, même si ça ne se voit pas au calendrier. S'il vous plaît, faites-le bien.
Voilà, rideau tombé pour aujourd'hui.
Mais revenez demain, on vous garde des places.